1 Culture Média.
9h, 11h.
Philippe Vandel.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour Culture Média. Au menu, vous le savez, média et culture au sens large. Nos indispensables du jour, on va vous faire découvrir un jeune humoriste suisse et on va parler musique avec le nouvel album de Bruce Springsteen. Et à propos d'arriver, j'en profite pour saluer le nouveau rédacteur chef de l'émission depuis cette semaine, Antoine Janton. Bienvenue à toi. Notre info média, une affaire de dopage. Les affaires de dopage, pardon, c'est également des affaires de mensonges et de mensonges médiatiques. C'est ce que raconte un ouvrage aussi drôle que bien informé. Ça s'appelle « À l'insu de mon plein gré ». On en parle avec les auteurs, les journalistes Manuel Tissier et Christophe Duchiron. Puis nos invités, Dov Alphonse est le nouveau directeur de la rédaction de Libération, appelé à la rescousse par Patrick Drahi pour sauver le titre et multiplier les abonnements numériques par 3 ou par 5, rien que ça. Vous allez découvrir un personnage, ancien patron du quotidien israélien de référence Haaretz, où il a fait tomber un Premier ministre, et ancien agent secret du Mossad. Enfin, la comédienne Pascale Arbillot pour le film Miss, où elle joue la patronne du comité Miss France autour d'Isabelle Nanty et de Thibaut de Montalembert. Il y aura en prime son portrait inattendu par Hélène Manarino. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Culture Média, c'est parti. Bonjour Charles Decamp.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Place à votre journal des médias, le sommaire du jour.
Une bonne nouvelle pour le cinéma français. À quand le retour de Michel Drucker, la flamme pas près de s'éteindre et le mea culpa timide de Nicolas Bedos.
Mais on commence par les audiences. Qu'est-ce que les Français ont regardé hier soir à la télé?
C'est France 2 qui a pris la première place des audiences avec le téléfilm « T'inquiète pas, je suis là » avec Samuel Le Bihan. Cette fiction inédite sur l'autisme a été suivie par 4,3 millions de téléspectateurs pour une part d'audience de 18%.
Il était là, dans ce studio hier, on lui a porté chance et aussi merci à Laure Gignès qui programme cette émission. C'est elle qui a invité Simon Le Bihan.
M6 est deuxième avec la suite de « L'amour est dans le pré » saison 15. Karine Le Marchand et les agriculteurs ont fédéré 3,7 millions de personnes pour 16,2% de part d'audience. La 6 est aussi leader sur les femmes responsables des achats de moins de 50 ans à 24,6%. Enfin, TF1 pointe en troisième position avec un nouvel épisode de Joséphine Ange Gardien, avec en guest star une désormais ex-star de TF1, Laurence Boccolini, au compteur 3,3 millions de téléspectateurs, soit 14,3% de part d'audience en petite forme.
Culture Média.
Et on commence ce journal des médias, une fois n'est pas coutume, par une bonne nouvelle pour le cinéma français.
Et oui, et il en a bien besoin, et nous aussi, à vrai dire. La semaine dernière, après un suspense haletant, la sortie du film Adieu les cons d'Albert Dupontel était finalement maintenue au mercredi 21 octobre.
Excusez-moi, grossièreté. Adieu les cons.
Voilà, je vous en avais parlé dans le journal. Le doute avait plané suite à l'annonce du couvre-feu dans, à l'époque, 9 métropoles françaises qui représentaient plus de 20 millions de spectateurs, interdits de séances de 20h ou même de 22h. Le couvre-feu a été étendu ce week-end, mais ça n'a pas empêché Adieu les cons de rencontrer un succès impressionnant. De mercredi à dimanche, le film emmené par Albert Dupontel et Virginie Efira a attiré dans les salles obscures de l'Hexagone 475 200 spectateurs. C'est une performance impressionnante en temps normal et encore plus quand la plupart des cinémas de France ferment à 21h. Pour contextualiser, il s'agit tout simplement du meilleur démarrage de la carrière d'Albert Dupontel en tant que réalisateur. C'est mieux que Au revoir là-haut, qui avait fini sa course en 2017 à 2,1 millions d'entrées, et mieux que 9 mois ferme en 2013, qui avait lui aussi passé la barre des 2 millions de billets vendus.
Et d'autant plus qu'on se souvient qu'Albert Dupontel était assez remonté contre la décision de Gaumont de maintenir la sortie de son film la semaine dernière.
Oui, dans une interview au Parisien, l'acteur et réalisateur n'avait pas mâché ses mots. Il s'était dit, je cite, « frustré et triste de cette sortie bâclée ». Il avait expliqué qu'une sortie en août avait déjà été décalée à l'époque. On lui avait promis que le film serait protégé et à nouveau décalé en cas d'inquiétude sur la situation sanitaire à l'automne. Voilà ce qu'il avait dit. Les arguments qui m'ont été avancés sont malheureusement triviaux économiques, ce qui est le mal de la planète depuis quelques décennies. Je demandais juste un délai d'attente, mais aujourd'hui, on n'a même plus envie de s'arrêter pour réfléchir. Il faut aller vite, coûte que coûte. C'est du gâchis, avait-il conclu. Pas sûr qu'il pense encore la même chose aujourd'hui.
Un mois après son hospitalisation, on a des nouvelles de Michel Drucker.
On l'avait appris un peu au dernier moment, juste avant qu'il fasse sa rentrée. L'animateur de Vivement Dimanche a été opéré du cœur le mois dernier. Son retour sur France 2 a donc été décalé. À l'époque, c'est la patronne de France Télévisions, Delphine Ernotte, qui avait elle-même rassuré le public quant à la santé de Michel Drucker. Elle avait aussi indiqué qu'il pourrait prendre tout le temps nécessaire pour se remettre et que sa case l'attendrait à son retour. Depuis la rentrée, la case appartient d'ailleurs toujours à Michel Drucker grâce à des best-of de Vivement Dimanche. Et il ne devrait pas y avoir de numéro inédit avant février février 2021. C'est ce qu'a révélé sa coproductrice historique Françoise Coquet au Parisien hier, je cite « La chaîne nous a demandé de remonter des émissions jusqu'en janvier, mais à mon avis, il ne reviendra pas avant février ». Au passage, dans cette interview, on apprend que Michel Drucker avait demandé à la direction de France 2 de confier les commandes de Vivement Dimanche pendant sa convalescence à la navigatrice Maud Fontenoy, mais la chaîne a refusé catégoriquement, selon sa coproductrice. Voilà ce qu'elle explique. Il tenait à ce que Michel reste à l'antenne pour maintenir le lien avec ses téléspectateurs, même avec des rediffusions, peu importe la durée. Et ils n'ont donc, a priori, toujours pas changé d'avis.
Et puis hier soir, les téléspectateurs ont dit au revoir à Marc, le héros de la flamme sur Canal+.
Oui,
je suis là.
Oui, je l'ai eu.
C'est en régie, ça crie.
Alors non. Ça, c'est Leïla Bekti, une des prétendantes de Marc dans la série de Canal+. C'est Jonathan Cohen qui incarne ce pilote de ligne venu chercher l'amour dans une émission de dating fictive, La Flamme, aux côtés du comédien, un cast de rêve. Leïla Bekti, donc, Géraldine Nakache, Doria Tillier, Vincent Dedienne, Pierre Ninet ou encore Florence Forestier et Camille Chamou. Hier, Canal+, proposait donc les trois derniers épisodes de la série. Je ne vais évidemment pas vous spoiler la fin de la saison, qui est toujours disponible sur MyCanal. Mais ce que vous ne savez sans doute pas, c'est qu'une deuxième saison est d'ores et déjà en préparation. C'est ce qu'a révélé Camille Chamou, qui incarne la délurée Chatalere.
Salut !
Chatalere.
Chatalere ?
Non, Chatalere, c'est de l'italien.
Italien ?
Eh oui.
Ouf, où elle me plaît, elle, avec son charme.
Voilà, on rit parce qu'on a vu la série.
Voilà, donc Camille Chamou l'a annoncé dans le cadre de l'excellent podcast Sériland des Baroques. Elle en a même dit plus sur le format de cette future saison 2.
D'ailleurs, je suis très curieuse de savoir comment va se passer leur saison 2, qui est l'inverse. Dans leur saison 2, il va y avoir tous les garçons et une postulante. Bon, la postulante est géniale, on ne peut pas dire qui j'imagine pour le moment, mais elle est géniale. En revanche, les garçons, il y a énormément de comédiens super drôles en France, donc je pense que ce ne sera pas difficile de trouver des comédiens humoristiques, mais je me demande s'ils auront aussi autant de liberté et de liberté du regard sur eux-mêmes.
Alors, La Flamme, c'est l'adaptation d'une série américaine qui était notamment produite par Ben Stiller. Canal+, en a proposé 3 épisodes par semaine depuis le 12 octobre dernier. En moyenne, les 6 premiers épisodes ont réuni plus de 400 000 téléspectateurs en diffusion linéaire, mais évidemment, pour la chaîne, ce sont les performances globales sur la plateforme MyCanal qui comptent. Elles n'ont pas encore été dévoilées, mais a priori, les chiffres sont très bons.
Ah sûr, parce que si c'était mauvais, il n'y aurait pas de saison 2. Nicolas Bedeau, c'était l'invité de Quotidien hier soir. Il s'est plus ou moins excusé pour sa tribune anti-masque du mois de septembre.
Le 24 septembre dernier précisément, le comédien et réalisateur avait choqué en publiant un long texte sur son compte Instagram. Voici un petit extrait. « Soyons francs, arrêtez tout !» Tous les masques, les confinements, excepté face à vos parents très fragiles, vivez à fond, tombez malade, allez au restaurant, nous devons désormais vivre, quitte à mourir. Donc voilà, petit extrait de cet appel à l'inconscience collective. Nicolas Bedos a été vivement critiqué par d'autres personnalités du monde du spectacle, mais aussi et surtout par beaucoup d'hommes et de femmes politiques, à commencer par le ministre de la Santé, Olivier Véran. Invité hier soir de Quotidien, l'acteur a été interrogé sur cette prise de position très controversée et il a fait une sorte de mea culpa.
Je comprends.
L'indignation. Enfin,
Oui, je comprends la polémique. C'est un texte excessif.
Vous l'avez écrit où ?
Je l'ai écrit dans la colère. C'est un texte que j'ai écrit le lendemain de la messe qui avait été organisée pour mon parrain Jean-Loup Dabadi.
Ouais.
Et donc c'est un texte qui est un peu irresponsable. Mais ça pose la question justement de la responsabilité d'un artiste. C'est une question d'ailleurs qui est abordée dans le livre par, ouais. Par Salvador Dali à un moment donné qui dit « Est-ce qu'un artiste a vocation à tenir des propos responsables ?» Je ne crois pas. Moi, je ne crois pas. Moi, quand j'achète un roman de Houellebecq, d'Henry Miller ou de Virginie Despentes, je n'achète pas un guide de conduite. Sinon, j'achète un bouquin de Marc Lévy ou je ne sais quoi. Mais non, je ne crois pas.
Pas d'excuses donc et une ligne de défense qui est celle de l'artiste, pas contraint de tenir des propos responsables, en ajoutant une dose de propos sortis de leur contexte. Face à Yann Barthès, Nicolas Bedos a assuré que dans la rue, il croisait des gens qui avaient compris parce qu'ils suivent son compte Instagram. Voilà ce qu'il a aussi dit. Ils savent dans quelle période de ma vie je me trouve, ils savent que je n'ai pas pu accompagner mes proches, que mon père est en partie parti à cause du confinement et de sa solitude imposée. Ils savent que c'est un cri du cœur. Il y a une semaine, dans une interview au Point, Nicolas Bedos avait déjà avoué qu'il n'avait, je cite, pas pris la mesure de l'insulte que sa litanie semblait postillonner au masque des soignants qui se battent pour nos gueules, aux flics qui s'épuisent à nous protéger de nos ivresses affectives.
Fin de citation. Merci beaucoup Charles Decan. À demain pour un nouveau journal des médias. Dans un instant, notre info média du jour, un livre qui rassemble des histoires de dopage et les pires excuses des sportifs pris la main dans le pot à confiture face à ces accusations. On sera avec Manuel Tissier, rédacteur chef adjoint de Stade 2 sur France 3 et co-auteur du livre À l'insu de mon plein gré. A tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vondel.
Une cycliste qui explique avoir bu trop de café, un tennisman qui se justifie en disant qu'il a mangé trop de vos hormones. Les histoires de dopage, le sport en regorge, le cyclisme, le tennis donc, mais également l'athlétisme, le football et même le billard, on va le voir, avec souvent des sportifs qui n'assument pas et qui essayent de trouver des excuses totalement farfelues et pathétiques, au point que parfois elles en deviennent drôles. C'est le sujet du livre de notre invité. Bonjour Manuel Tissier.
Bonjour Philippe Vandel.
Vous venez de publier Christophe Duchiron À l'insu de mon plein gré, les plus belles excuses du dopage. C'est chez Solar. Vous connaissez bien le sujet puisque vous êtes rédacteur chef adjoint de Stade 2, l'émission sur France 3. Jusqu'où les sportives peuvent-ils aller pour nier les faits ?
Ah ben ils peuvent aller très loin dans des récits rocambolesques, avec une imagination débordante. Et c'est ce qu'on a découvert avec Christophe Duchiron en se penchant un peu dans le détail de ces affaires, dont certaines sont très médiatiques, mais d'autres beaucoup plus obscures, un peu plus confidentielles, mais très savoureuses. Et ils peuvent aller très très loin, jusqu'à expliquer qu'ils ont marché dans une flaque de PO, par exemple.
Évidemment, il y a souvent des flaques de PO dans la rue, ça peut tomber comme ça. Le PO, ça nous rappelle l'affaire Festina et la fameuse phrase apocryphe à l'insu de mon plein gré, de Richard Virand, qui en fait avait été écrite évidemment par les Guignols. Alors, dans votre livre, il y a une petite centaine d'histoires, plus ou moins connues, une centaine, c'est pas rien. Elles sont réunies par thème, avec les mêmes mots pour commencer. C'est pas moi, c'est. Alors au choix, c'est pas moi, c'est ma famille, c'est pas moi, c'est la nourriture, c'est pas moi, c'est un complot. Les sportifs, on l'a dit, ont beaucoup d'imagination et c'est l'un des enseignements de votre livre. C'est ce qu'a retenu votre co-auteur, Christophe Duchiron.
Le champion sportif, attention, c'est pas que du muscle et du mental, c'est aussi une imagination sans bornes. Voilà. Dès lors qu'il faut justifier un contrôle positif. Et alors là, on atteint parfois des sommets de création littéraire. On peut parler véritablement de Jules Verne du muscle. Un petit exemple. Le rugbyman Ryoel Yamanaka, voilà, rugbyman japonais qui préparait la Coupe du Monde 2011, un jeune plein d'espoir, s'est fait attraper au métandriol, qui est un stéroïde anabolisant, en gros c'est une pilule à muscle. Excuse trouvée par ce sympathique nippon, je ne voulais absolument pas me doper, mais simplement me faire pousser la moustache. Voilà, on appelle ça une excuse au poil, désopilante et peut-être navrante.
on voit pas nos moustaches parce qu'on a les masques.
Il le raconte aussi bien qu'il l'écrit, ouais. Christophe.
Mais ces sportifs, quand ils sont contrôlés positifs, est-ce qu'ils se défendent maladroitement parce qu'ils sont maladroits ou parce qu'ils sont conseillés par une équipe qui les conseille mal ?
Alors il y a un petit peu les deux cas de figure, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a tellement d'investissement pour les sportifs. Ils mettent tellement d'eux-mêmes dans la recherche de la performance. Et ils essayent tellement de gratter une seconde, un millimètre, que quand ils se font prendre, ben ils ne sont pas du tout préparés, parce que aussi, c'est une diffusion parfois culturelle, le dopage, dans certaines disciplines. Et donc, ils ne veulent pas avouer, c'est ce qui s'est passé.
J'ai bien compris, mais est-ce que parfois il arrive que ce soit leur avocat qui dise « tiens, dis ça », quitte à ce que ce ne soit pas cru, au moins ça fera gagner du temps, ce qu'on appelle une manœuvre dilatoire en justice.
Alors, l'exemple, c'est Kelly White, par exemple, l'athlète, qui dit, lorsqu'elle est prise pour dopage après les championnats du monde d'athlétisme en 2003, c'est parce que je suis narcoleptique. Et en fait, elle l'avouera plus tard qu'elle ne savait pas ce que c'était la narcolepsie et que c'est son médecin qui lui avait dit que tu es narcoleptique parce que le genre de médicament que tu as pris peut correspondre à la narcolepsie. Donc voilà le genre d'invention et ils sont un petit peu parfois sous influence, ces sportifs. Ouais.
Les excuses avancées sont souvent folles, évidemment, ce qui fait la saveur de votre livre. Page 8, une joueuse de tennis qui explique qu'elle a été contrôlée positive à cause d'un médicament de sa mère tombée dans un bouillon. Et qu'ensuite, elle a bu raconter l'affaire.
Ouais, c'est Sarah Errani, qui était à Roland-Garros d'ailleurs cette année, qui a été finaliste, joueuse italienne. Effectivement, elle est attrapée à cause d'un stimulateur hormonal, le létrozole. Et en fait, je pense que sur ces équipes médicales qui constatent que cette hormone est présente dans un médicament contre le cancer. Et donc, Sarah Errani explique que sa maman, qui lui fait des pâtes, on est en Italie, donc il y a un petit côté couleur locale qui est sympathique aussi, que sa maman a malencontreusement fait tomber ses piles de médicaments dans le bouillon pour préparer les pâtes et que Sarah Errani a mangé les bonnes pastas de la mama et qu'elle s'est retrouvée positive. C'est vraiment pas de chance.
Une de mes préférées, l'une des plus belles, c'est celle du joueur de billard. J'ignorais d'ailleurs qu'on pouvait se doper pour jouer au billard.
Ah qu'est-ce qu'il a fait ? C'est une des grandes découvertes.
Alors racontez, qu'est-ce qu'il a fait ce gars ?
Eh ben, c'est Yunsuke Inoue, grande star du billard au Japon, hein, je l'ignorais. Eh bien, il a pris des stéroïdes. Il était pris aux stéroïdes, ce qui est, je vous le rappelle, un produit qui fait gonfler les muscles. Donc, ce qui est pas forcément le premier attribut
c'est
du joueur de billard.
Musclor, oui.
Ouais. Enfin, c'est à ça qu'a été pris Ben Johnson, par exemple,
le coureur de 100 mètres.
Ouais, en 88. Eh bien, il est pris, il est contrôlé positif aux stéroïdes. Et ce qu'il explique, c'est qu'en fait, il avait pris un produit pour stimuler sa sexualité.
Ah oui.
Et pour honorer sa femme. Et donc, il a fait toute une sortie en disant « Mais c'était pour ma femme que j'ai fait tout ça. » Et donc, les stéroïdes qui étaient présents dans le produit sont ressortis lors du contrôle antidopage.
Et on l'a cru ? Il a été condamné ou il est...
Alors lui,
il a été condamné. C'est page 86, on va retrouver ça en attendant. Je voudrais qu'on parle de Cannavaro, le footballeur italien champion du monde en 2006. Qu'est-ce qu'il a raconté, lui ? Il a trouvé des traces de cortisone dans ses urines, mais il avait une bonne excuse.
Oui, il a été piqué par une guêpe. Et en fait, il a mis une crème la veille du contrôle et il s'est fait piquer dans les deux sens du terme, puisqu'il y a eu un contrôle, mais il a fourni une autorisation à usage thérapeutique, ce qui est un peu la carte d'immunité du sportif qui se fait prendre pour dopage. Et grâce à ça, eh bien, le comité national italien qui gère les affaires de dopage a dit « Ah d'accord, ok, bah, tu avais le droit ».
Okay. Ils sont beaucoup de mansuétude en Italie, beaucoup moins de mansuétude pour le joueur de billard, puisqu'Antoine Genton me dit qu'il a été suspendu pendant 2 ans. Vous restez avec nous et je remarque, Manuel Tissier, qu'on n'a pas encore parlé de cyclisme et pourtant il y en a des histoires. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
À l'insu de mon plein gré, c'est sous-titré Les plus belles excuses de dopage. Évidemment, les plus belles, c'est aussi les plus ridicules. C'est chez Solar. C'est signé Christophe Duchiron et Manuel Tissier, qui est notre invité. On va revenir au cyclisme pour parler du cas Richard Virenque, qui niait contre toute évidence être dopé en 98. Nous étions le 16 juillet, 2 jours avant l'exclusion de l'équipe Festina. Et c'est vous, Manuel Tissier. À l'époque, vous étiez journaliste pour Europe 1 et vous teniez le micro Europe 1 devant Virenque.
On est dans le feu de l'action, hein, donc on a notre conscience tranquille en tout cas, en tant que professionnel. Pour d'autres informations, l'équipe Festina, il est hors des questions qu'elle quitte le Tour de France. Hein, on est là venu pour le gagner, donc on va pas repartir comme ça, surtout pas.
Sauf que 2 jours plus tard, l'équipe Festina est exclue du Tour de France.
On n'a été jamais sujet à un contrôle positif et on nous suspend par rapport à une image. Parce qu'il vaut mieux qu'on s'arrête, parce que ça nuit à beaucoup de monde, donc... C'est sûr, on s'arrête. D'accord, ok. Et je remercie le public qui a été très, très... qui nous a énormément soutenus et qui va encore nous soutenir. Et je donne rendez-vous à l'année prochaine.
Il est au bord des larmes en longtemps, Richard Virenque, qui dit avoir été dopé à son insu, avant de reconnaître les faits. Plus tard, un dopage organisé, récit catastrophique pour sa carrière, pour son image. Mais vous dites, Manuel Tissier, que vous avez de l'empathie pour Richard Virenque. Pour quelle raison ?
Alors... Ça me rappelle énormément de souvenirs. Ça me rappelle que ce jour-là, dans l'arrière-salle du café Chez Gilou en Corrèze, c'est Loïs Ledu, qui était motard ici, qui tenait le micro. Et on avait toute une équipe complètement dévastée par cette affaire. Et plus de 20 ans après, 22 ans après, j'ai de l'empathie pour Richard Virenque, parce que Richard Virenque, il a été la victime expiatoire d'un système de dopage jamais vu dans l'histoire du sport, puisque le dopage à l'EPO, on va dire, commence en 1991 sur le Tour de France. On pense que c'est l'histoire des PDM qui sont victimes d'une intoxication collective. Et elle se poursuit après avec Lance Armstrong pendant des années. Et Richard Virenque, il a, et c'est pas moi qui le dis, c'est le président du tribunal de Lille, du tribunal correctionnel qui a jugé l'affaire Festina, il a dit qu'il a été victime d'un système, Richard Virenque, d'un système dans lequel le sportif était un petit peu broyé et presque obligé de se doper s'il voulait être au niveau des autres.
Vous lui avez proposé d'écrire la préface du livre, vous lui avez longuement parlé, il a refusé, pour quelle raison ?
J'imagine que c'est trop douloureux encore pour lui, parce que j'imagine, et c'est ce que j'ai compris, qu'il n'a pas du tout envie de rire avec cette histoire qui a fracassé sa carrière. Parce que Richard Virenque, c'était un immense champion. Il est quand même revenu après l'affaire Festina, hein, on se souvient, avec le maillot de Paul T, puis de la Quick-Step. Il a encore gagné des maillots à poids, mais il a perdu évidemment énormément d'argent, et sans doute que cela, ça l'a empêché de gagner le Tour de France, dont il était en 98, on le rappelle, l'un des immenses favoris.
Ça fait près de 20 ans, Manuel Tissier, que vous travaillez pour France Télévisions, le diffuseur principal de la course. On est tiraillé entre l'envie de diffuser une belle compétition sportive, juste et équitable, et aussi la nécessité d'enquêter, d'informer, parce que vous aimez le sport, mais vous êtes d'abord journaliste. Mmh. Comment on arrive à bien faire son travail dans ces conditions?
C'est une tension un peu permanente, mais plutôt féconde, en tout cas en ce qui concerne le service public, puisqu'il y a un service des sports qui est dépendant des programmes et qui est chargé de proposer les plus belles images de sport, le plus d'émotions, notamment sur le Tour de France. Et c'est vrai que le dopage, c'est une grosse tâche sur la nappe du pique-nique. On ne peut pas imaginer faire la fête en imaginant que les coureurs sont en train de se doper, de prendre des produits, etc. Donc, il y a, c'est vrai, une tension entre cette idée de proposer le plus beau des spectacles, de le garder très propre, très lisse, et puis la nécessité d'informer avec les journalistes. Et à France Télévisions, il y a sans aucun problème des journalistes qui font leur travail et des programmes qui font aussi leur travail. Et donc, de temps en temps, il y a une petite ligne de crête sur laquelle il faut être assez habile.
Ouais, parce que là, c'est schizophrène. C'est pas comme si c'est la même personne qui enquête à la fois sur le dopage et qui fait la recension de ce qui s'est passé dans l'étape. Je me souviens que ce reproche avait été fait aux journalistes de France Télévisions. Ils couvraient le Tour de France. Ouais. On leur disait qu'ils étaient naïfs avec le dopage. Et puis, on voyait une manière de parler du dopage pendant la course, moi je suivais le Tour de France, et une autre manière d'en parler dans le 20h. Ouais. C'était pas les mêmes personnes. Je voudrais qu'on entende Gérard Holst. Il parlait sur Europe 1, on était en 2013. Il racontait comment Lance Armstrong n'avait pas apprécié l'une de ses questions.
J'ai essayé de faire mon métier de journaliste. Hein? Je l'ai fait. Le Monde publie ce jour-là un rapport de l'agence contre le dopage disant il a pris des corticoïdes. Donc je lui pose la question, il fait la gueule et juste après l'émission, il me dit Gérard, je reviens plus, c'est pas la peine. Moi, je suis sur le Tour de France pour courir, je suis pas pour répondre à ce genre de questions. Donc il m'a boycotté et ça me fait doucement rigoler lorsqu'un papier dans Télérama récemment là me met en cause en disant que je suis un naïf alors que j'essaie simplement de faire mon métier de journaliste. De recevoir des leçons comme ça, j'en ai un tout petit peu assez.
Aujourd'hui, la situation...
C'est 1999, ça, Armstrong et les corticoïdes.
Ouais, mais Holst le racontait en 2013. La situation n'a pas changé, puisque l'équipe couvre évidemment le Tour de France, journal L'Équipe, et le journal L'Équipe dépend du groupe Amaury, qui est l'organisateur du Tour de France. Et de la même façon, il se passe ça sur France 2. Est-ce que c'est sain?
C'est pas sain, c'est obligatoire. Parce que toutes les grandes compétitions qui génèrent énormément d'argent sont portées et diffusées par des énormes entreprises de presse, que ce soit du service public ou du service commercial. Pour le foot, c'est TF1, pour le rugby, Canal.
Oui, mais par exemple, la FIFA qui organise la Coupe du Monde, elle n'a pas un journal.
Non, mais elle a beaucoup d'argent. Et c'est à elle qu'on lui achète les droits. Donc les télés sont clientes de la FIFA, d'une certaine manière.
Reproche récurrent, est-ce qu'il existe une différence de traitement médiatique entre les sportifs soupçonnés ou accusés de dopage? Autrement dit, est-ce qu'un footballeur sera moins exposé qu'un cycliste ou qu'un coureur à pied?
Ça, c'est très lié au modèle économique et à l'organisation du sport. Le foot, les équipes sont protégées par une armée d'avocats. C'est un sport collectif, c'est très structuré.
Attendez, dans votre réponse, cela sous-entend, le sous-texte, c'est qu'ils se dopent autant que dans les autres sports?
Ça, j'en sais rien, parce qu'il y a moins de contrôle, sans doute, et il y a une culture qui est moins avérée que dans le cyclisme, où il y a eu, depuis 98 notamment, un énorme coup de balai et énormément de contrôle. Après ça, je ne sais pas s'ils sont plus dopés ou moins dopés. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ne sont pas organisés du tout de la même manière et que c'est beaucoup plus le monde du football est beaucoup plus puissant que le monde du cyclisme, qui organisait en fait il y a une fédé, mais après ce sont des sponsors, c'est des petites boîtes en fait qui sponsorisent chaque équipe. Ouais. Donc il y a peut-être un petit peu moins d'encadrement et de possibilités de se défendre.
Manuel Tissier, c'est vous derrière le masque là, c'est bien vous. Je vous pose la question parce que je voudrais que vous racontiez une histoire à la fois drôle et pathétique que vient de révéler l'Agence mondiale antidopage. Vous la connaissez, les haltérophiles qui ont usé d'un stratagème inédit pour échapper au contrôle antidopage. Vous connaissez cette histoire?
Non.
Au lieu d'y aller eux-mêmes, ils sont 18, ils ont envoyé des sosies
Ah, pas mal.
Des types avec visage et musculature similaires, suffisamment convaincants pour berner les autorités. Et les gens ont fait pipi dans, dans l'éprouvette à la place des vrais haltérophiles.
Il faut vraiment qu'on fasse un tome 2. Mais en fait, c'est rien par rapport à la Russie. Hein, les affaires de Grigory Rodchenko, là, qui sont formidablement racontées dans le documentaire Icar. Là, c'est un dopage d'État. Il y a vraiment un dopage d'État avec des méthodes dignes de l'espionnage, dignes du Bureau des légendes, avec des fioles qui sont changées dans la nuit. C'est fabuleux, c'est extraordinaire ce qui s'est passé. Et ça depuis 1968.
Documentaire qu'on peut encore voir en ce moment sur Netflix. Ouais. Vous avez 10 secondes pour nous raconter votre histoire de dopage préférée.
Ah bah, l'une de mes préférées, c'est celle de Fatima Yvelin, qui est une coureuse française et qui, à 43 ans, se fait prendre pour dopage. Et elle explique qu'en fait... C'est de l'EPO hein, ouais. qu'on retrouve dans ses urines. En fait, elle courait un marathon, un semi-marathon à Perpignan et qu'il a beaucoup plu ce jour-là, qu'ils sont passés à côté d'un hôpital, que l'eau a dégouliné sur des déchets hospitaliers qui contenaient de l'EPO. Elle a marché dans une flaque, a éclaboussé son pantalon, donc c'est parti intime, et donc elle a fait pipi de l'EPO. Merci Fatima, c'était très très intéressant.
Merci beaucoup et on salue le CHU de Perpignan. Merci beaucoup Manuel Tissier. À l'insu de mon plein gré, les plus belles excuses du dopage, c'est chez Solar et c'est en librairie depuis jeudi dernier. Restez avec nous, nous on va revenir dans un instant avec notre invité, le nouveau directeur de la rédaction de Libération. C'est là encore un personnage, il s'appelle Dom Alphon. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Bondel.
Bonjour Dom Alphon.
Bonjour.
Vous êtes depuis septembre le nouveau directeur de la rédaction du journal Libération. C'est peu dire que vous êtes très attendu. Vous avez été élu par la rédaction à 90,8%. Et moi, c'est dans Libération, il y a plusieurs décennies, que j'avais appris ce terme. Quand on avait un score comme ça, on le qualifiait de stalinien. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour vous parce que vous êtes plébiscité ou au contraire, vous voyez là le signe funeste que personne ne voulait faire le job perdu d'avance?
D'abord, ce serait plutôt un score maoïste, vu les origines et les racines du journal.
Ouais, c'est vrai.
Non, je pense que si c'était un appel d'offres externe ouvert à tous, il y aurait eu énormément de candidats. C'est l'un des plus beaux journaux du monde et je suis très fier d'avoir été élu. Je pense que le score reflète simplement que le plan... mise en avant rédactionnellement par moi et du point de vue budgétaire par Denis Oliven, a conquis la rédaction. Ceci dit, les risques sont évidents à tous aussi, hein, à tous et à toutes, comme on dit chez nous.
On va parler du journal et du fond du journal, mais d'abord quelques mots sur vous-même, parce que vous êtes un personnage, je l'ai dit, vous êtes arrivé à ce poste via Denis Oliven, qui vous a présenté à la rédaction. C'est lui qui souhaitait vous rencontrer, car il faut dire que vous avez un sacré pédigré. Vous êtes franco-israélien, vous avez dirigé pendant 3 ans Haaretz, quotidien israélien de référence lu dans le monde entier. Il a une édition bilingue en hébreu et en anglais. Auparavant, vous avez travaillé pour les services secrets israéliens au sein de l'unité 8200, le service d'espionnage électronique du Mossad, pour faire court. Expérience dont vous avez tiré un roman, un thriller, traduit dans 14 pays, qui va devenir une série. Est-ce que ça aide d'avoir été agent secret pour s'occuper de journalisme? Ou alors est-ce que ce sont deux métiers totalement différents?
Alors, agent secret, je ne sais pas, mais officier de renseignement, ça ressemble beaucoup à être un directeur de journal, en ce sens qu'il se passe plein de choses. Nous sommes submergés par beaucoup trop d'informations. Et donc, la première chose à faire, c'est de sélectionner qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc, déjà, les deux métiers se ressemblent dès la première heure. Après, il va falloir trouver un angle. Si on est officier de renseignement, ça va être, supposons, pour le ministre de la Défense. Si on est directeur d'un journal, ça va être pour les lecteurs, abonnés, numériques ou sur papier. Et on va se dire, OK, quel est notre angle là-dedans? Qu'est-ce qui va être inattendu? Et donc, les deux métiers continuent à se ressembler. Et enfin, il y a la réussite. Autrement dit, s'il y a eu une influence. Est-ce que votre rapport comme officier de renseignement a eu une influence de décision sans doute gouvernementale, ou bien est-ce que comme directeur du journal, vous sentez que vous avez eu une influence sur le cours des choses?
Alors Denis Oliven vous a confié 2 missions, diriger la rédaction, en améliorer le contenu du journal, mais également travailler sur l'offre numérique dont on parle toujours et avec raison. Vous avez un objectif, alors je ne sais pas trop, en 3 ans, tripler les abonnements si j'en crois les échos, les quintuplés si j'en crois le monde, en vrai, quels objectifs vous a-t-on fixé? Vous visez quels chiffres?
Mais déjà 3 fois plus, le triplé me va.
Ouais.
Maintenant, la France, qui est toujours un peu en retard par rapport à d'autres pays européens, les Français n'achètent pas tellement d'abonnements numériques pour des journaux. Autrement dit, ils ne payent pas, ils n'ont pas l'habitude de payer pour de l'information, certainement pas pour de l'information sur Internet.
Ah bah je rebondis sur ce que vous venez de dire. Alors, oui. Comment vous allez leur faire prendre cette bonne habitude?
Alors, d'abord, on voit déjà un changement, puisque même nous avons déjà une courbe d'abonnement très, très, vraiment à la hausse, tous les indicateurs sont au vert. Le Monde a fait 100 000 abonnés cette année. Donc, on voit bien que les Français commencent à comprendre que l'information peut être...
100 000 abonnés de plus.
De plus,
vous, vous en visez combien de plus? Vous en avez combien? Vous en visez combien?
Nous en avons 40 000
ouais.
Et nous en visons 170 000. Donc, nous devons faire en 3 ans ce que Le Monde a fait en 8 mois. Ce n'est pas si difficile que ça. Ce n'est pas un exploit. Mais c'est tout à fait jouable.
Ils l'ont fait, on ne va pas comparer avec Le Monde. Ils l'ont fait avec quelles recettes et quelles sont les vôtres, surtout?
Bah, je pense que Le Monde est un journal extrêmement conservateur dans son approche journalistique, vu qu'ils sont au top de leur métier. Et il est extrêmement difficile de changer quand on est déjà le numéro un des journaux de référence français.
Il y a plein de journaux américains, je ne me souviens plus, c'est le Washington Post ou le New York Times, qui a gagné des abonnés numériques, mais non pas en améliorant la qualité de ses papiers, mais en mettant des mots croisés géants.
Oui, alors...
Et vous le savez comme moi, vous connaissez comme moi cette étude.
C'est
on ne s'abonne pas toujours pour les bonnes raisons, j'en sais quelque chose en tant que Canal+.
Alors, d'abord, il est évident qu'il y a beaucoup de facteurs qui poussent quelqu'un à faire un abonnement numérique à un journal. Ce n'est pas forcément, comme un journal papier, un sentiment que celui-là, c'est mon journal. Je veux m'abonner parce qu'il me représente. En fait, je veux me promener dans les rues de Paris avec Libération qui faisait partie d'une sorte d'uniforme, ouais. D'une jeunesse qui n'est plus tout à fait jeune. En numérique, c'est vous et votre appli. C'est vous et votre ordinateur. Donc, il n'y a plus du tout ce reflet social. Et la vraie raison, donc, est un intérêt. Il faut simplement une routinisation de l'inattendu pour être directeur de journal. Il va se passer quelque chose aujourd'hui. On ne sait pas ce qui va se passer. Mais il faut que vous ayez en place des journalistes, des postes et une certaine approche dynamique, si possible, pour escompter cela et pour faire ce que vous devez faire.
Quand le fond rejoint la forme, juste une question. Quand vous êtes arrivé à Libé, vous étiez atterré. Le samedi, c'est mort.
Oui, si vous voulez...
J'explique, c'est parce qu'il n'y a pas d'édition papier le dimanche.
C'est vrai.
Donc, il ne se passait rien sur le site, puisque les journalistes n'étaient pas là.
Oui, c'est vrai. Il y a énormément de changements à faire quand on comprend le défi numérique. Et les week-ends, certainement dans un pays comme la France, ça va être un sacré défi. On se met déjà dessus.
Voilà. Et surtout qu'il y avait beaucoup de déficits, puisque par exemple, la saison passée, le samedi, il se passait beaucoup de choses, c'était les Gilets jaunes. Vous restez avec nous. On va continuer à parler du nouveau Libération avec vous, Dov Alphon. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Avec Dov Alphon, le nouveau directeur de la rédaction de Libération. On le disait, un de vos modèles, peut-être votre modèle emblématique, c'est le New York Times. Qu'est-ce qu'ils ont de plus que les autres sur le numérique?
Alors, d'abord, ils ont énormément de journalistes, donc ils ont investi dans les vrais outils de travail. C'est d'abord le journalisme. Mais surtout, ils ont eu énormément de chance d'être, disons, le journal de gauche, de centre-gauche américain. Et Donald Trump les déteste. Et donc, dès qu'il a été élu président, ils n'avaient pas grand-chose à faire. Ils ont reçu des millions d'abonnements, simplement... Comme indicateur que ces gens-là, leurs lecteurs, estimaient qu'ils devaient investir dans leur journal.
Et vous-même, vous avez vécu la même chose en tant que patron de la rédaction d'Haaretz en Israël?
Tout à fait, avec Netanyahou, sa deuxième élection a amené une hausse des abonnements numériques flagrante. Donc c'était peut-être pas des gens qui considéraient le Haaretz comme leur journal, mais ils voulaient, par ce geste, dire « moi je suis de l'opposition et donc je veux lire des papiers qui me disent qu'est-ce qui se passe vraiment ouais. ». Et c'était ça. Maintenant, bien sûr, mon job comme directeur de Libération serait plus facile si Marine Le Pen était élue demain présidente de la République française, mais ce n'est pas ce que je souhaite.
D'accord. Mais quand même, si ça arrivait, autre chose, contrairement à la doxa, c'est contre-intuitif, le New York Times, c'est des articles longs, alors que nous, on nous sorine depuis des années qu'avec le numérique, avec Internet, il faut faire de plus en plus court que les gens n'ont pas le temps de lire.
Alors, tout le monde est tombé dans ce piège. Hein. Beaucoup de journaux sont tombés dans ce piège et on dit à leurs journalistes d'écrire court, court, court. Quelquefois, c'était presque insultant tellement c'était 4 lignes, c'est tout. Et il s'est avéré, c'est contre-intuitif, hein, il s'est avéré qu'en réalité, les gens préféraient, comme c'est un médium très intime, votre téléphone, ils préféraient passer plus de temps avec lui, avoir plus de profondeur que de tout le temps revenir en arrière, lire encore un papier, revenir en arrière, lire encore un papier. Ils sont, si on est dans le métro, bondé, avec des gens autour, masqués autour de vous, on préfère lire un reportage sur le Venezuela, 15 minutes jusqu'à l'arrêt, plutôt que de tout le temps chercher autre chose.
Je fais cette émission depuis 2 ans. C'est la première fois que j'entends un patron de journal me parler de son journal et me parler de son téléphone mobile. Mobile first. Les patrons oui. français parlent du journal en disant on tourne les pages, ils sont tout le temps ouais. avec un journal papier. Alors ouais. quand on regarde Libé, évidemment j'ai regardé Libé depuis assez longtemps, c'est pas un généraliste comme les autres. Par exemple, dans le numéro d'aujourd'hui, il y a 7 pages autour de l'interview qui fait la une que vous avez faite du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Oui. Une double page sur le boycott des Turcs, une double page sur le reconfinement, normal. Et ensuite, il y a des sujets qui seraient traités par une brève. Exemple, la double page économie ne s'intéresse qu'à un seul sujet, le rachat de l'Institut de sondage BVA. Et la double page sport, c'est que ce soir, il y a l'OM qui joue. Vous savez qu'il y a la Vuelta, le Tour d'Espagne, pas du tout. La page sport, c'est une double page, c'est un type de banlieue qui participe à des courses de scooters en Italie. C'est quasiment, c'est pas un quotidien généraliste, c'est quasiment un magazine, Libé.
Alors d'abord, traditionnellement, c'était, et ça l'est toujours, un quotidien qui est axé non seulement sur le sociétal et la politique, mais sur la culture, par exemple. Nous avons énormément de pages culture, ouais. et il y a beaucoup de gens
non, qui... Non mais là, ne pas traiter le sport pour les gens qui aiment le sport.
Alors aujourd'hui, je vous rassure, c'est vrai, mais demain, nous aurons une double page de Grégory Schneider sur le Paris Saint-Germain.
Ça vient même, pas, si vous avez une double
ce
page...
Ce n'est pas un principe.
Non mais si vous avez une double page sur le PSG, c'est-à-dire que pendant ce temps-là, vous ne parlez pas du cyclisme. Je veux dire par là que vous n'êtes pas œcuménique.
Bah,
c'est pas
pour...
comme dans le Parisien ou dans les autres journaux où on parle de chaque sport.
C'est vrai, mais c'est bien pour cela que nous avons un site internet que nous espérons encore agrandir, du moins dès les premiers temps, ça va se passer assez vite dès février. C'est toute une réforme et il y aura énormément de sujets traités sur le site de Libération où on n'a pas la place dans le journal. C'est aussi simple que cela.
Donc, c'est deux vecteurs différents.
Tout à fait.
Le journal papier et le site sur lequel on pourra retrouver le match d'hier de l'OM. Enfin, de
tout
ce soir, d'hier, qu'on le verra demain. Quel est votre lectorat? C'est un journal qui se dit de gauche. Il a été fondé par Serge Julie et Jean-Paul Sartre.
Oui.
Est-ce que vous savez combien de personnes en France se disent à gauche?
Non, c'est très difficile.
Je vais vous le dire.
Savoir.
Je vais vous le dire.
Allez-y.
Le dernier sondage que j'ai trouvé, parce que vraiment, c'est ce qu'on appelle de l'auto-positionnement. C'est un sondage IFOP du 23 juillet 2020.
D'accord.
On demande aux gens s'ils se disent à gauche. Combien de personnes se disent à gauche? 13% seulement.
Oui, c'est un mauvais chiffre.
32% se disent au centre, 39% se disent à droite. Et ça, c'est votre territoire qui se réduit comme peau de chagrin à la gauche.
Alors, d'abord, c'est vraiment un phénomène mondial. Nous avons eu affaire à des leaders qui sont tellement populistes que la gauche est devenue donc un gros mot, c'est une insulte. Et donc les gens hésitent à se présenter comme faisant partie de la gauche.
Ouais.
C'est un phénomène
est-ce que vous pensez
qui va
aussi
mourir.
À la, est-ce que vous pensez également à la gauche populiste? Parce qu'il y a deux gauches, je ne vais pas paraphraser Manuel Valls, mais il y a Jean-Luc Mélenchon et les Insoumis, et il y a ce qui reste du PS dirigé par Olivier Faure. C'est qui la
oui.
gauche pour vous?
Mais pour nous, la gauche, c'est tout ça. La gauche, en réalité, ça va de Manuel Valls à Jean-Luc Mélenchon. Il n'y a aucun problème avec ça. Il faut un dialogue entre ces partis et nous souhaitons bien sûr être la plateforme sur laquelle, dans laquelle ils s'étripent, ils en viennent aux mains, tout ce qu'ils veulent.
Ouais. C'est incroyable que vous disiez ça, donc vous pensez qu'ils vont s'étriper, en venir aux mains et vous ne pensez pas qu'ils puissent se réunir et gagner une élection.
Je lis les interviews que nous ont accordées tous ces gens-là, ne serait-ce qu'il y a 3 jours, et j'ai bien l'impression qu'ils non, ça ne va pas se passer comme ça.
Merci beaucoup Dove Alphon, nouveau directeur de la rédaction de Libération. Quelque chose me dit qu'on va vous revoir et vous réentendre.
Merci beaucoup.
Culture Média continue après le rappel des titres de 10h. On va recevoir Eva Rock pour son zapping du lendemain, Bertrand Chamorro pour son écran de veille. Notre invité, c'est la comédienne Pascal Arbillot pour le film Miss, l'histoire d'un homme qui veut devenir Miss France. Hélène Manarino va nous dresser son portrait inattendu de Pascal Arbillot, pas de Miss France. Et puis dans les indispensables, le retour du boss, c'est Bruce Springsteen et la nouvelle scène suisse humoristique. À tout de suite.
Europe 1, Culture Média.